Vous êtes sur RTL.
Quand même.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Airbnb, Abritel, Booking, les plateformes de location saisonnière ont le vent en poupe, tout comme les sites d'échange d'appartements pour les vacances comme Home Exchange. Mais comment démasquer les fausses annonces et éviter de se faire arnaquer? C'est l'enquête de la semaine. Les plantes sont utilisées depuis l'Antiquité pour leurs vertus médicinales. Alors, il y en a certaines qui ont des propriétés antiseptiques, sédatives, digestives et qui peuvent soulager les petits maux de tous les jours. Quelles sont ces plantes qui soignent et comment les faire pousser sur son balcon ou dans son jardin? C'est la question de la semaine. Garriguette, sifflerette, charlotte, mara des bois, c'est la saison des fraises. En tarte, en charlotte ou juste avec un tout petit coup de chantilly. Il y a mille et une façons de les déguster. Comment célébrer les fraises en cuisine? Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Super, c'est le week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h comme tous les samedis matins pour un nouveau numéro de Nous voilà bien sur RTL. Je vous espère en grande forme, bien réveillée pour recevoir nos habituels conseils malins et pratiques. C'est parti! Hervé Gabibeau, bonjour!
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et avec vous, on va partir en vacances.
Oui.
C'est sympa quand même parce que c'est effectivement un sujet qui commence à concerner nos auditeurs. Comment préparer nos vacances? On va parler avec vous donc des sites pour trouver sa location idéale et puis aussi dans un deuxième temps cette possibilité que l'on peut avoir d'échanger nos habitations. Quel type de fausses annonces peut-on trouver sur Abritel, Airbnb et Booking?
Eh bien, des annonces pour des locations de maisons fantômes, c'est-à-dire qui n'existent pas aux adresses communiquées aux vacanciers. Dans ce cas, les photos qui accompagnent les annonces, elles ont été volées. C'est une maison qui dit, mais elles ont été volées. Le risque pour le vacancier, c'est donc de débarquer avec sa valise et de trouver un terrain vide et un champ de betteraves ou une maison déjà occupée qui n'a rien à voir avec celle qu'il a réservée pour son séjour.
Ok, d'accord. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que Airbnb vérifie ce genre de choses, non?
Oui, tout à fait. Ils ont des algorithmes, ils utilisent un tas d'outils pour essayer de pister ces annonces, les vérifications qu'ils font également au niveau bancaire, au niveau du profil des personnes. Mmh. Oui. Il faut savoir que les plateformes ne sont pas responsables du contenu des annonces, ce sont des hébergeurs uniquement, mais ils ont l'obligation de retirer les annonces à partir du moment où elles sont fausses. On sait qu'elles sont fausses. Voilà.
D'accord, elles sont frauduleuses. Quels sont les autres conseils que vous pouvez donner aux vacanciers qui nous écoutent, Hervé?
Je dirais que le plus important, c'est de suivre des règles très précises en matière de règlement. Les plateformes sont des tiers de confiance, il faut le garder à l'esprit. Ne finalisez en aucun cas une transaction en dehors de la plateforme, même si l'on vous promet une réduction de prix en passant par un autre service. Et surtout pas pour payer sur un compte basé à l'étranger. Il faut utiliser les outils mis à disposition par les plateformes, c'est le meilleur moyen d'avoir des garanties.
D'accord, ok. Si la maison que j'ai louée ne correspond pas à la description, si je suis déçue, est-ce que je peux être remboursée? Est-ce que la plateforme doit aussi me reloger en urgence en cas de problème?
Alors, la non-conformité du logement au descriptif de la location est prévue par les conditions générales d'utilisation de toutes les plateformes. Mais concrètement, lorsqu'on arrive fatigué à un voyage, entrer dans sa valise, on a envie d'une chose, c'est de se poser. Dans ces conditions, il vaut mieux faire preuve de pragmatisme. Alors, si le problème de non-conformité est à la marge et ne vous empêche pas de prendre possession des lieux, alors il faut tenter de négocier avec le propriétaire une réparation, un nettoyage, le remplacement d'un élément ou je ne sais quoi. Si le problème de non-conformité est bien plus flagrant, par exemple, s'il n'y a qu'une seule chambre, alors que la non, sans préciser deux, on peut demander l'annulation de la location à la plateforme directement. Mais dans ce cas, il ne faut pas trop espérer une solution dans la minute de sa part. Hein. Ce sera un peu une TND pour le vacancier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le problème, il est essentiel de savoir que toutes les plateformes, ou presque, payent les propriétaires un jour ouvrable après l'arrivée des vacanciers. Et donc, l'argent que vous avez versé n'est pas encore passé dans les mains du propriétaire indélicat. Il est donc important de signaler le problème sans délai à la plateforme pour demander un remboursement total ou partiel en fonction de la gravité du problème. Et bien évidemment, plus il y aura de photos attestant de vos constatations, mieux ce sera pour votre dossier.
Évidemment. Quel mode de règlement est le plus sûr pour le locataire?
Peu importe, quel que soit le mode de paiement, en général, c'est la carte bancaire. Parfois, on peut aussi payer avec des chèques vacances, c'est le cas chez Abritel ou Gîtes de France. Ce qui importe, c'est que la transaction doit se faire via la plateforme. Comme je l'ai dit, évidemment, ça implique des frais de service pour le vacancier. C'est le prix de la sécurité. Alors, certaines personnes essayent d'en faire l'économie, mais ce n'est pas toujours rentable parce qu'effectivement, on prend le risque de se faire arnaquer quand on sort de la plateforme.
Je voudrais qu'on parle des plateformes, justement, pour nos auditeurs, qu'on leur donne des conseils. Le site le plus sérieux qui envoie des agents vérifier sur le terrain que l'annonce correspond bien ou bien, c'est lequel?
Oui, Gîtes de France, c'est la plateforme la plus ancienne qui a cette spécificité-là. Mais il faut dire qu'elle a aussi beaucoup moins de biens en catalogue, c'est environ 56 000. Mmh. 100% des logements mis en location sur cette plateforme sont visités au préalable par des agents départementaux, donc contrôlés, et tous ces agents sont rattachés à des agences réparties sur le territoire. Ils vérifient les prestations dans chaque logement, attribuent une note qui va de 1 à 5 épis. Ils peuvent suggérer aux propriétaires aussi de faire des travaux, des aménagements, et tout ça fait que ça rend impossible les fraudes que l'on constate sur les autres plateformes. De ce fait, c'est le seul site qui paiera le propriétaire avant l'arrivée du vacancier.
D'accord. Et les plateformes les plus souples pour les délais d'annulation?
Alors, pour la plupart des sites, ce sont les propriétaires des logements qui déterminent les conditions d'annulation.
D'accord.
Mais elles sont plus ou moins encadrées par les plateformes. Par exemple, sur Airbnb, le propriétaire a le choix entre des conditions très strictes, c'est 30 ou 60 jours, strictes, fermes, modérées ou flexibles. Par exemple, flexible, c'est seulement 24 heures, modéré, c'est 5 jours. Et on est à peu près sur le même système pour Abritel. Donc il y a une grille sur laquelle viennent se greffer en fait, les propriétaires. Alors sur Gîtes de France, en revanche, c'était le seul qui est dans ce cas-là, les conditions d'annulation sont définies par le site lui-même. Ce sera 21 jours au moins avant le début de la location pour tout récupérer, et entre le 20e jour et le 8e jour pour récupérer 50% du prix de la location.
Voilà. Le propriétaire, il peut changer d'avis et annuler une réservation?
Alors, l'hôte qui annule est heureusement beaucoup plus rare, et en général, le voyageur est entièrement remboursé sans aucun frais, à condition, encore une fois, que la transaction ait été réalisée de la plateforme. Pour le propriétaire, il y a des pénalités, ce n'est pas facile non plus pour le voyageur, qui varient en fonction des sites. Airbnb, c'est une pénalité financière qui dépend de la date d'annulation. Mais ça peut aller jusqu'au bannissement si cela se renouvelle au moins 3 fois.
D'accord.
Et c'est le type d'incident qui est précisé dans sa fiche. Voilà. Et clairement, le bon point au booking sont beaucoup plus indulgents avec le propriétaire qui annule au détriment des vacances, bien sûr.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Hervé, parce que j'ai encore des questions à vous poser sur les échanges de maisons, de logements pendant les vacances. On se dit effectivement que c'est un bon plan, hein, mon appart à Paris contre ta maison au soleil et vice-versa. Enfin, on en parle dans un instant. Et puis après, je vous emmènerai au jardin. Voilà, mais le jardin qui nous fait du bien, puisqu'on parlera de plantes médicinales. Et puis on ira manger des fraises avec Ligori Lecomte. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On est ensemble jusqu'à 10h pour Nous voilà bien. Dans un instant, nous allons partir au jardin avec vous, Pierre Nesman. Bonjour Pierre,
bonjour,
comment
Flavie.
Allez-vous?
Ça va bien, je vous remercie.
C'est sympa parce que vous allez nous parler de plantes médicinales qu'on peut avoir sur notre balcon, dans notre jardin.
Exactement, balcon, jardin, terrasse et puis des plantes qui apaisent, voilà. Qui soignent.
Voilà, et ça va nous faire du bien. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, vous êtes gourmand, vous, Pierre?
Ah ben oui, vous le savez, Flavie.
Ligori, vous êtes venu avec des fraises ou pas?
Alors, celle de mon jardin commence à peine à rougir.
Ah oui, d'accord.
C'est le tout début de la saison.
Bon, vous allez nous raconter, Ligori Lecomte, comment cuisiner les fraises, parce que parfois, on en achète plein, des petites cagettes de fraises, et puis, je sais pas, on en mange quelques-unes, et puis après, très bizarrement, c'est un fruit
qui... Il reste plus
grand-chose. Soit il reste plus grand-chose, soit c'est un fruit qui mûrit très très vite.
Exactement,
je dirais. Ouais. Et on trouve ça dommage, donc les recettes, ce sera un petit peu plus tard avec vous. Vous allez bientôt partir en vacances, messieurs?
Pas tout à fait, mais on commence à y réfléchir.
Voilà, parce que là, on est en train de parler justement d'échange de maisons avec Hervé Cabibeau de 60 millions de consommateurs. Hervé, merci d'être avec nous encore pour quelques questions concernant maintenant un nouveau mode de vacances, c'est l'échange d'appartements et de maisons. Ligori Lecomte est dans notre studio. Ligori, vous pourriez échanger, vous, votre appartement ou votre maison contre un lieu de vacances?
Alors, celui des autres, oui. Le mien, je ne sais pas.
Oui, c'est ça. C'est toute la problématique. Hein, parce qu'effectivement, quelles sont les conditions, Hervé Cabibeau? Comment ça se passe, en fait? Je peux échanger mon appart parisien contre une villa à Los Angeles?
Oui, alors d'abord, il y a 3 plateformes spécialisées dans ce type d'échange que nous avons étudié. Donc, ça s'appelle Home Exchange, HomeLink et Switch Home. Ouais. C'est un concept très intéressant à condition de disposer d'un appartement parisien, puisque c'est l'exemple de votre question, qui soit suffisamment attrayant pour le propriétaire d'une villa à Los Angeles. Hein, mais l'inverse, c'est aussi vrai.
Mais l'échange, il est totalement gratuit, en fait, ou il faut un abonnement, une assurance? C'est pas forcément évident de faire rentrer des gens chez soi et d'aller chez l'autre.
Alors, c'est entièrement gratuit, à l'exception d'un abonnement annuel pour deux plateformes de l'ordre de 120 euros. L'échange est basé sur la confiance, ce qui n'est pas évident de prime abord, mais la plupart des témoignages que nous avons reçus se rejoignent pour dire que c'est un bon concept. Évidemment, il vaut mieux avoir une assurance complémentaire là aussi, parce que pour des raisons de casque, c'est possible. Voilà, c'est pareil.
Et qui juge en fait de la compatibilité des logements ? Ce sont ceux qui vont sur les annonces ?
Bien, les personnes mettent l'annonce, mettent leur appartement donc sous forme d'annonce, et ils proposent des destinations. Et de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, une personne qui veut venir à Paris, si c'est de Paris, peut regarder s'il y a une compatibilité. Vous savez, c'est juste s'il y a une famille avec deux enfants qui à Paris veut aller à Los Angeles, elle va essayer de trouver une maison qui correspond à son profil, et l'échange se fait comme ça.
Voilà, et puis essayer dans la même catégorie, je dirais, de biens immobiliers. Est-ce qu'on peut échanger son appartement si on n'en est que locataire ? Ou est-ce qu'il faut prévenir son propriétaire si c'est un logement social ?
Il n'y a pas de transaction financière, il n'y a donc pas de sous-location, il n'y a pas lieu d'avertir qui que ce soit, si ce n'est vos voisins qui pourraient s'inquiéter de voir qu'une famille de vacanciers s'est installée chez vous. C'est comme si vous receviez des amis, en quelque sorte.
Oui, d'accord, mais des amis qu'on ne connaît pas, quoi. Donc, effectivement, ça a un avantage, c'est que ce sont des vacances gratuites. Il faut trouver un bien qui corresponde à nos envies et puis sûrement aussi des destinations. Mais je pense que c'est un petit côté communautaire aussi, Hervé Cabibeau, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont le même état d'esprit qui se retrouvent sur ce genre de site.
C'est ça, et puis ça permet aussi d'aller au bout du monde, visiter d'autres continents, oui, effectivement.
Voilà, donc c'est Home Exchange, Home Link et Switch Home. Et puis de toute façon, votre enquête, Hervé Cabibon, on la retrouve dans le magazine 60 millions de consommateurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce samedi matin avec nous. Et puis
merci
à la prochaine, Hervé. Merci.
Au revoir.
Allez, on part au jardin.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Fruits, graines, feuilles, écorce et racines. Chaque plante serait donc un recueil de médecine. Et celle qui nous ferait le plus de bien ne vient.
Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie.
On vient d'entendre Calune. Vous connaissiez Calune ?
La Calune, c'est une bruyère.
Ah ben voilà, bah c'est aussi le nom d'un groupe.
Voilà.
On vient d'entendre chanter. Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique et rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6. Les plantes médicinales. C'est marrant parce que ça ne m'est jamais venu à l'esprit.
De quoi ? De les faire pousser ?
Oui, ah bah oui, bien sûr.
Eh bien oui, c'est tout à fait possible. On peut les faire pousser dans des pots. Alors bien entendu, on va parler des plantes médicinales qui sont acclimatées à notre climat, pas des plantes exotiques, hein, puisque en phytothérapie, il y a beaucoup de plantes exotiques. Mais là, c'est des plantes qui sont dans nos jardins, dans nos campagnes, que l'on peut cultiver effectivement sur nos rebords de fenêtres, des balcons et pourquoi pas une terrasse.
D'accord, mais ce sont des plantes que je connais ?
Mais oui, vous avez la menthe, vous avez le thym, vous avez le romarin, la sauge.
Mais pour moi, ce sont des plantes aromatiques.
Aromatiques, et bien elles ont aussi des vertus médicinales. La sauge, son nom porte bien son nom. En latin, salvia, sauver, salvare, sauver en latin. Donc c'est une plante qui effectivement va aromatiser des plats, mais qui peut aussi en infusion, eh bien, soigner et apaiser des maux.
Génial, donc il y a des plantes annuelles et des plantes exotiques.
Oui, alors les plantes annuelles, c'est celles que l'on va ressemer tous les ans, par exemple le souci ou l'aneth, mais la plupart d'entre elles, ce sont des plantes vivaces. On parlait de la sauge, du thym, du romarin ou de la menthe. Et puis il y a quelques plantes exotiques qui sont acclimatées en Europe, et notamment le gingembre.
J'adore.
Que l'on peut acclimater, effectivement, qu'on peut faire pousser dans nos régions. Il faut le rentrer en hiver, et puis la verveine citronnelle qui a un délicieux parfum de citron.
Est-ce qu'il faut faire attention quand même de ne pas s'auto-médicamenter avec la phytothérapie ? Est-ce qu'il y a des règles à savoir, à connaître ?
Oui, effectivement. Alors, en règle générale, il faut les utiliser en petite quantité. Quand vous faites des tisanes, des infusions, il ne faut pas le faire de manière prolongée si vous avez des maux. Et si vraiment les maux persistent, il faut évidemment consulter. Et puis, il faut faire attention aux effets contraires. Vous avez le thym, par exemple. Le thym qui est utilisé pour apaiser la gorge, le rhume. Eh bien, le thym, si on l'utilise de manière très intensive, très importante, eh bien, il peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut faire attention. Et puis, il y a également l'allergie. Moi, personnellement, je suis allergique au pollen. Alors, c'est un peu
curieux. C'est pas pratique
pour un jardinier. Et c'est vrai que parfois, quand je prends des tisanes en infusion, eh bien, il y a des pollens, de tisanes de fleurs, le souci notamment. Et ça peut provoquer quelques allergies.
Vous dites qu'il faut bien nettoyer les feuilles quand on habite en ville.
Eh bien oui, parce qu'en ville, vous avez des pollutions atmosphériques, suie. Et donc, si tout d'un coup, vous mettiez à infuser les feuilles que vous allez récupérer sur votre balcon, sur votre terrasse, vous allez aussi infuser toutes ces petites particules. Donc l'idéal, vous les laissez tremper dans de l'eau de manière à ramollir cette petite poussière qui est dessus, puis vous les lavez à l'eau, puis après effectivement vous allez pouvoir les infuser.
Alors pas de problème, mais si je dois les conserver, est-ce que je les sèche avec un papier absorbant ? Parce que moi j'ai l'impression que quand on met des plantes, mais dans l'eau, elles se ramollissent et après on ne peut plus rien en faire.
Elles se ramollissent, mais elles vont diffuser leurs bienfaits. Donc en fait vous avez deux possibilités, soit on les fait sécher effectivement tranquillement, et puis elles vont se réhydrater au moment de l'infusion, soit effectivement on les utilise fraîches, et là c'est effectivement les particules, les molécules qui vont tout de suite se diffuser dans l'eau de manière très très rapide et efficace.
Est-ce que je peux toutes les mettre dans le même bac ?
Vous pouvez, à partir du moment où elles ont les mêmes exigences. On va mettre le thym, le romarin, la sauge, qui sont des plantes plutôt méditerranéennes, dans le même bac, parce que c'est un bac qui va avoir une terre un peu drainée, un peu filtrante. En revanche, si vous avez de la menthe ou de la mélisse citronnelle, eh bien ce sont deux plantes qui aiment les sols frais, et dans ce cas, on va les utiliser et on va les mettre dans un pot identique, mais avec un terrain plutôt frais.
C'est facile à planter tout ça ?
C'est très très simple. Vous les achetez au printemps, dans les jardineries, chez les pépiniéries, chez les horticulteurs. Vous les rempotez dans un pot assez grand, 30 à 40 cm. Plus il y a de place, plus elles vont se développer. Et puis ensuite, eh bien évidemment, vous les laissez se développer, vous les arrosez en été, vous leur donnez un peu d'engrais au printemps. Et lorsque les feuilles ont séché en hiver, vous les rabattez, elles vont repousser. Ça, c'est tout l'avantage des plantes vivaces.
Ça vous parle, ça, Ligori Lecomte ?
Oui, alors moi, j'en ai quelques-unes dans le potager, alors plus pour le côté culinaire. Mais j'ai des amis qui se lancent dans un potager, justement, pour ce côté
médicinal.
Médicinal, ouais, tout à fait.
Mais en fait, on peut faire les deux. C'est-à-dire que quand je mets de la menthe sur mes fraises, quelque part, je fais attention à ma santé. On est bien d'accord.
Absolument. C'est le combo parfait.
Et le soir, vous pouvez très bien faire une infusion de menthe avant de vous coucher. Et puis, effectivement, à midi, les utiliser en dessert.
Eh bien, vous allez nous expliquer dans un instant les petites infusions. Ça fait petit vieux, hein, mais c'est bon pour la santé. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Alors moi, je suis contente, car dans ce studio, Ligori Lecomte qui s'apprête à nous donner des recettes avec les fraises, donc c'est-à-dire qu'on va se régaler, là ça commence, elles arrivent les fraises, elles sont belles, elles sont rouges, elles nous font envie, Ligori.
Ah bah, elles nous ont fait envie là tout l'hiver, donc là elles arrivent
exactement.
Petit à petit, et maintenant top départ.
Ça y est, c'est la saison, on va kiffer les fraises, et Pierre Nesman nous aide à avoir un petit jardin médicinal à la maison. Pierre Nesman, quelles plantes ont des propriétés antiseptiques pour soulager les maux de gorge et le rhume ? Vous nous en avez parlé, il y avait la sauge.
Alors, il y avait la sauge tout à l'heure, il y a le thym, il y a le bouillon blanc qui est une plante bisannuelle. On va trouver aussi la camomille et toutes ces plantes, eh bien, on peut les cultiver soit sur un rebord de fenêtre, un balcon, une terrasse, au jardin évidemment. La camomille, on va la trouver également dans les prés et on va les utiliser en infusion.
Insomnie ou stress ?
Alors là, on va choisir la mélisse, c'est une plante vivace, ou la verveine citronnelle, c'est une plante exotique que l'on va garder sur le balcon pendant l'été mais qu'il va falloir rentrer à l'intérieur en hiver. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a le tilleul. Le tilleul, c'est un grand grand classique justement pour les insomnies. Alors lui, on ne l'a pas dans son jardin ou sur un balcon, il va falloir le récupérer à la campagne. Et dans les tilleuls, je vous conseille le Tilia cordata, le tilleul à feuilles cordées, à feuilles en forme de cœur, qui est le plus parfumé, le plus savoureux.
Et si j'ai un petit coup de mou, si je veux booster mon énergie ?
Alors, la menthe poivrée,
j'adore.
Très très bien. Ça, c'est une plante vraiment qui va pousser sur le balcon, la terrasse, dans un grand pot avec un terreau un peu humide. Et puis le gingembre, on peut essayer le gingembre. Alors le
j'adore.
Gingembre, c'est une plante exotique. Ce sont effectivement, des racines un peu charnues qu'on va acheter, mais on peut les planter. Il y a souvent des petits bourgeons quand on les achète, hein, quand on les garde dans un coin, des petits bourgeons qui se forment. On les fait pousser et à l'automne, on les récupère, on les nettoie, on les fait sécher, puis on les a directement faites soi-même.
Et il y a le ginseng aussi.
Exactement.
Mais ça, c'est pour faire l'amour, non ?
C'est exactement pour cette fonction-là. Exactement,
on
vous avez tout à fait raison. Je rougis comme les fraises, d'ailleurs. Mais ça, c'est une.
Mais je ne vous ai pas demandé si vous en preniez. C'est juste que ça m'interpelle, le ginseng.
Effectivement. Alors attention, c'est une plante exotique. Là, en France, c'est impossible de la cultiver.
D'accord.
Voilà, ça ne marche pas sous notre climat. C'est une vraie plante exotique.
D'accord. Bah tiens, à propos de sexualité, si j'ai des migraines, qu'est-ce que je peux prendre pour me soulager le soir ?
Les migraines, on va prendre du romarin, lavande, l'amande poivrée qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, le romarin, lavande, c'est très pratique, hein, c'est facile, ça pousse tout seul sur un balcon, une terrasse. Et puis, si vous êtes à la campagne, la reine des prés, la grande camomille sont aussi deux plantes qui vont effectivement apaiser les migraines.
On continue avec le douloureux, c'est ménopause.
Alors, Annette. Ouais. Camomille allemande, le fenouil, la sauge et l'alchimie sont vraiment des plantes très adaptées. Puis on va trouver également les feuilles de framboisier et le souci des jardins.
D'accord. Et celle qui booste la libido, donc je disais ginseng, mais vous me disiez qu'on ne pouvait pas en avoir, mais le gingembre. Moi j'en prends tous les jours. Hein,
mais voilà, le gingembre, ça c'est une plante formidable pour digérer, pour se tonifier,
pour tout.
Et le gingembre, comme dit, c'est une plante exotique, c'est une petite plante buissonnante que l'on peut faire pousser à l'extérieur, sur un balcon, dans un pot, sur une terrasse, mais qu'il faut rentrer en hiver parce qu'il redoute le froid.
Pierre Nesman, vous restez avec nous. Je voudrais citer votre ouvrage « Mon jardin s'adapte au changement climatique » chez Delachaux et Niesley. Allez, on passe à la cuisine. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. ça va, les Gorilles Lecomte?
Ah bah, sur un air des Beatles, ça va toujours très bien.
Vous êtes chef du site cuisineaz.com. Il faut quand même que je vous dise que vous accompagnez tous mes week-ends. Alors vous, c'est et vrai. Puis le site, hein, parce que je passe mon temps, j'adore cuisiner. Et je vais beaucoup, beaucoup sur ce site pour trouver des conseils. Et je trouve que vos recettes sont super.
Ça fera plaisir à tous ceux qui travaillent dessus.
Eh bien, vous les saluerez de ma part. Alors, dites donc, la saison des fraises, on l'attend. C'est maintenant, hein, c'est on
moment,
est d'accord.
Oui,
hein,
effectivement. Ça a commencé il y a à peu près un mois en Bretagne, dans les régions un peu clémentes.
D'accord.
Et puis là, effectivement, dans les jardins, ça va commencer à battre son plein. Oui.
Il y a plein de fraises différentes. Moi, j'ai du mal hein,
à beaucoup, faire... Il y en a beaucoup différentes.
Je vois la mara des bois et sinon la grosse fraise rouge. Voilà.
La grosse fraise rouge, c'est une variété qu'on peut avoir.
Mais parce que sinon, je ne connais pas les variétés.
Non, non, il y en a vraiment beaucoup. Bah là, sur celle qui arrive le plus tôt et la plus connue, c'est la gariguette,
ah,
qui
oui,
est un
vrai.
Peu plus longue et acidulée. Voyez. Après, plus on va avancer dans la saison, vous avez la charlotte qui est en forme de cœur, elle un peu plus tendre et parfumée. On peut parler de la maestro qui a un rouge bien vif et qui est un des plus gros fruits des variétés remontantes. Puis aussi la fraise ananas, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est une fraise qui est blanche en fait et qui n'est pas rouge.
Oui, tout à
alors
fait.
C'est pas une variété hybride en fait, j'ai appris que c'était l'ancêtre de la fraise. Donc voilà, il y en a plein de différentes, donc à vous de varier le plaisir.
Effectivement, c'est Monsieur Fraisier qui a ramené cette fraise blanche en Bretagne, qui s'est installée en Bretagne, et puis après on l'a hybridée avec des fraises des bois rouges pour obtenir effectivement les fraises et la diversité des fraises rouges que nous avons aujourd'hui.
Il s'appelait, c'est pour ça que ça s'appelle la fraise.
Et oui,
parce que
Fraisier.
C'était Monsieur Fraisier.
Monsieur Fraisier. Alors ça s'écrit pas pareil, c'est Freizier.
C'est Fraisier, pas vrai.
Monsieur Fraisier.
Oh,
exactement.
C'est dingue ça, comme parmentier pour la patate.
Et voilà.
D'accord. Ok. Où est-ce qu'on peut acheter des fraises garanties sans pesticides? Il y a des labels. Moi, je les prends bio.
Alors il y a des labels, il y a notamment un label rouge qui comprend les gariguettes, les sifflorettes et les charlottes du Lot-et-Garonne.
Ouais.
Pour ce label-là, vous avez des fraises aussi qu'on dit IGP, là plutôt pour des indications géographiques, notamment celle du Périgord. Et après, vous pouvez aussi trouver un label zéro résidu de pesticides. Donc forcément, c'est des choses un peu plus compliquées à trouver. Les labels bio, vous en parliez juste avant, c'est pareil, très compliqué parce que maintenant elles viennent souvent d'Espagne, etc.
Alors,
de moins en moins de fraises françaises, malheureusement.
Donc, la fraise d'Espagne, c'est pas bon.
Non.
On peut le dire.
Ben, vous avez raison de le dire. Ouais, elle a mauvaise presse.
C'est plein de flotte. C'est pas bon du tout, quoi. On évite la fraise d'Espagne.
On évite la fraise d'Espagne. C'est forcément cultivé sur des grandes plaines bâchées, vous voyez. Donc, en général, c'est pas mal de pesticides, etc. Donc oui, elle a la mauvaise réputation et puis elles viennent de loin. Elles sont stockées dans des cagettes plastiques, etc. Donc, ça fait pas mal de bonnes raisons pour ne pas en consommer et plutôt aller chez un producteur de fraises de la région. Le plus local possible, avec des fraises de pleine terre directement.
On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL, on va passer aux recettes.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
En compagnie de Pierre Nesman qui est resté avec nous, car Pierre est toujours ravi de bonnes recettes, et de Ligori Lecomte qui est chef du site cuisineaz.com. On parle donc des recettes de fraises. On ne sait jamais véritablement quoi faire avec des fraises. Hein. Pardon, mais à part fraises au sucre ou fraises chantilly, moi, ce n'est pas un fruit qui m'inspire des masses.
Bah c'est déjà pas
Ligori
mal.
Ligori Lecomte. Oui, enfin d'accord,
c'est
parce que je la mange comme ça. Quoi.
Ah, mais après, je pense que la fraise, c'est un fruit qui, moins elle est travaillée, meilleur elle est. Je ne suis pas forcément fan des fraises qu'on va retrouver mixées ou cuites en confiture, etc. Moins elle va travailler, plus elle va rester crue et belle, meilleure elle sera. Donc après, en fonction des recettes que vous voulez faire, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, que ce soit la charlotte, une tarte aux fraises, même juste une salade de fraises toute simple, toute fraîche, ça sera aussi très, très bon.
La gariguette, c'est la variété la meilleure et la plus chère?
Alors c'est la plus chère, pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que la rareté crée la valeur. C'est la fraise, je l'ai dit tout à l'heure, qui arrive la première, donc c'est aussi la première logiquement à disparaître. Donc elle est attendue, elle est non remontante, du coup elle dure pas toute la saison, donc forcément elle va être plus chère que les autres. Mais si vous êtes un petit peu patient, vous attendez encore une ou deux semaines, vous allez en avoir d'autres aussi, et du coup à des prix plus raisonnables, mais tout aussi goûteuses.
C'est bon pour la santé, il paraît même que c'est un pouvoir laxatif. Alors tout le monde va se marrer en se disant que j'y retourne toujours, mais enfin bon, c'est vrai ou pas?
Décidément, oui.
Non, mais c'est vrai ou pas?
C'est tellement vrai qu'il paraît qu'en Chine on dit qu'une fraise par jour, ça vous donnera un corps sain, donc forcément c'est 80% d'eau, mais comme d'autres légumes. Hein. Donc oui, ça facilite un petit peu le transit. Donc, manger pas un seau complet.
Méfiez-vous, mais tout est bon pour manger des fraises. Voilà. Bon, comment je fais une bonne salade de fraises fraîches?
Alors, comment on fait ça? D'abord, on rajoute un petit peu d'acidité. Alors, le plus facile, ce serait de mettre un petit peu de citron. Moi, j'adore, c'est rajouter un petit peu de vinaigre, comme le vinaigre balsamique, qui est lui un petit peu sucré.
Ouais.
Vous verrez, ça sublime vraiment le goût des fraises. Puis alors, après, l'autre chose, alors ça rejoint aussi ce que Pierre disait tout à l'heure, un petit peu d'herbe, de la menthe, du basilic, ça va vous apporter vraiment un peu plus de fraîcheur aussi à votre recette. Donc, acidité et un petit peu d'herbe, c'est le combo parfait pour une bonne salade de fraises.
Il faut essayer le basilic parce que c'est vraiment différent.
Moi, je ça change de la menthe, on s'attend à la menthe pour mettre avec le sucré, mais le basilic, c'est aussi exceptionnel.
Ouais. Sucre ou chantilly pour vous, mon cher Pierre Nesman?
Sucre.
Et vous?
Alors moi je suis plutôt sucre. Alors ma femme répondrait les deux bien sûr, mais moi je suis plutôt sucre, je dois avouer aussi. Ouais.
Est-ce que ça se mélange bien avec d'autres fruits, les fraises? Oui, on peut
ça
faire
se mélange,
une
ouais,
salade de fruits.
Complètement. Moi j'adore l'associer avec de la pêche, par exemple, ou du melon. Donc ça tombe bien. Ça va être aussi la période en été. Et puis alors vous rajoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu de balsamique, ou pour ceux qui veulent un peu plus alcoolisé, un petit peu de Porto. J'ai testé ça pendant les vacances avec les fraises. Ça marche aussi très très bien.
C'est pas mal, un peu d'alcool. Crêpe tarte pavlova, c'est dans tous les desserts de l'été aussi.
Ah oui, tout à fait, dans les verrines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'essentiel, c'est de les garder les plus crus possible, de ne pas trop les travailler, pas trop les écraser, parce que c'est un fruit fragile, donc moins on y touche, meilleur il sera.
Est-ce que ça veut dire, alors, est-ce que dans les pâtisseries, les fraises, elles sont fraîches, ou par exemple dans un fraisier, ou dans une charlotte aux fraises, pour qu'elles gardent leur fermeté, elles sont fraîches, ou elles
alors
sont congelées?
Alors c'est justement aussi l'intérêt donc de les avoir fraîches et de les commander le plus tard possible par rapport à votre moment de réception ou de fête. Parce que plus vous allez la garder tôt, à partir du moment où elle est tranchée, comme quand on écutte des fraises par exemple, elle va commencer déjà un petit peu à se ratatiner, à perdre son jus, etc. Donc plus on prépare ça en avance, moins bon c'est. Donc là, pour les pâtissiers, c'est une course contre la montre. Il faut les travailler le plus tard possible.
Mais quand j'achète un fraisier par exemple, est-ce qu'il se peut que mes fraises soient des fraises surgelées?
Alors ça dépend où vous l'achèterez, mais oui, potentiellement, ça sera possible aussi.
Pour qu'elles ne soient pas abîmées, qu'elles soient. Voilà, il faut se méfier. Ok. On peut utiliser, et ça, moi j'adore le faire, la fraise en version salée.
Tout à fait. On connaît bien la.
Vous connaissez pas, Pierre?
Non.
Ah bah attends, tu vas voir, c'est délicieux.
On connaît la tomate mozzarella, mais alors fraise mozzarella, c'est une véritable tuerie que je conseille à tout le monde cet été.
Ouais. Ah ouais, je vous conseille fraise mozzarella, fraise un peu de feta aussi.
Ouais. Même avec des petites tomates cerises, on peut faire un petit mélange avec tout ça. Hein. C'est vraiment deux, trois produits qui s'associent du tonnerre.
On fait les recettes?
Pas de soucis.
On vous écoute alors. Fraise mozzarella, qu'est-ce que je fais?
Alors, pour cette salade de fraises mozza, il faut vraiment des choses toutes simples. Alors, la gariguette, j'ai dit tout à l'heure, en fait, elle est un peu moins sucrée que les autres. Elle a ce côté un peu plus acidulé, donc j'aime bien la travailler en version salée. Mm-hmm. Une boule de mozzarella, un petit peu de basilic, cher Flavie. De l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, qui là, moi, me tient à cœur avec les fraises. Et puis, un petit peu de roquette. Donc, tout simplement, hein, on va taille par contre les fraises finement, comme on ferait avec une tomate, hein, finalement. La mozzarella, pareil. Et puis, dans votre assiette, vous allez alterner ce petit carpaccio de fraises et de mozzarella, un trait réellement de balsamique, d'huile, sans mélanger les deux. Hein. Vous mettez un trait d'huile, un trait de balsamique pour tomber sur l'un ou sur l'autre. Et puis, vous rajoutez un petit peu de basilic sur ça. Et puis, c'est
une entrée. Hein.
Ouais, c'est
plutôt des grosses fraises, alors, dans ce cas. Non? Ou est-ce que...
Moi personnellement, je prends les gariguettes. On pourrait prendre des maestro ou des McDonald's, qui sont un peu plus grosses si on veut. Mais on a ce côté toujours un petit peu mignon, je trouve, avec des fraises.
Et c'est un peu sucré-salé. Hein.
C'est ça qui
était intéressant. En entrée, tenez, je vous file la recette, Pierre Nesman. Vous la ferez, puis la prochaine fois, vous nous raconterez comment ça se passe. Et vraiment, je le conseille à nos auditeurs. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est la tarte aux fraises, Ligon et Lecomte.
La tarte aux fraises, alors c'est un grand classique, hein, mais qui marche toujours avec une pâte sablée bien comme on les aime, une crème pâtissière dans laquelle on pourrait rajouter aussi d'autres choses, hein, on l'a dit tout à l'heure, des herbes mais d'autres choses, et puis surtout un dressage. Alors moi je conseille avec les fraises coupées en deux et le côté ouvert sur chaque, vous faites une belle rosace, vous voyez, pour faire tout le tour de votre...
Mais je les cuis, mes fraises, ou je fais une tarte aux fraises crue? C'est ça que je ne comprends pas.
En fait, vous allez faire cuire votre pâte sablée ou vraiment à blanc, donc on met ce qu'on appelle des petites billes en céramique ou une chaîne, vous savez, de cuisson, on la cuit à blanc. Ensuite, la crème pâtissière, vous la faites dans votre casserole. On la versera ensuite dans cette pâte. On laisse refroidir. Et ensuite, nos fraises juste crues, coupées en deux au dernier moment pour qu'elles rendent vraiment le moins de jus possible. Vous les dresserez délicatement sur cette tarte, vraiment tout à la fin.
D'accord. Et ça me prend combien de temps de faire une tarte aux fraises?
Honnêtement, je pense qu'en trois quarts d'heure, ça peut être fait. Vous faites d'abord la pâte, vous la mettez au four. Vous faites ensuite votre crème pâtissière. Ça sera dans le fond de pâte cuit, et ensuite vous avez le temps de tailler vos fraises délicatement et de décorer tout ça.
Voilà, Pierre Nesman, vous m'en direz des nouvelles. Ça y est, maintenant j'ai les papilles en émoi. À très bientôt, messieurs.
À bientôt.
Bon, merci alors beaucoup. Vous, c'est le thym, les plantes médicinales. Hein,
et puis
voilà.
Un peu de gingembre.
Et un peu de gingembre. Ah, bon, c'est tous les jours, le gingembre. Hein, tout va bien, je vous remercie. Et les gorilles, donc les fraises, c'est très sexy, les fraises aussi. Ah, merci, les gorilles. À très bientôt, messieurs. À la prochaine. Nous voilà bien, c'est terminé pour ce matin. L'émission est disponible en podcast sur l'appli RTL et sur tous les sites partenaires. Et les recettes aux fraises du chef Ligori vous attendent quant à elles sur RTL.fr. Moi, je vous dis à lundi, hein, dès 20h, pour Jour J. Jour J, c'est votre magazine d'actualité qui explore les événements inoubliables de l'histoire. Et puis samedi matin, dès 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'RTL et je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.